Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus le Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, on a célébré le baptême du Seigneur. Et avec cette célébration du baptême du Seigneur, se trouvait clos le temps dit de Noël. C'est l'époque où on ramasse la crèche, à moins qu'on ait, comme c'était le cas chez moi en Bretagne, la tradition de la garder pour faire durer le plaisir jusqu'au 2 février, le jour de la présentation. Mais si vous le permettez, j'aimerais bien demeurer encore dans ce temps de la manifestation, ce temps de l'épiphanie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis habillé en vert puisque nous avons repris le temps ordinaire. Et pourtant, ce mystère de Cana s'inscrit dans la droite ligne des mystères de la manifestation du Seigneur Jésus. Des moments qui nous disent, qui commencent à nous dire qui il est. Sa raison d'être parmi nous. On a célébré sa nativité, sa venue au monde. On a célébré l'épiphanie. Là, c'était plutôt la venue du monde vers lui, y compris ceux qui étaient hors champ, ces mages venus d'Orient, sortis d'on ne sait pas très très bien où, qui, se fiant à une étoile et à leur quête de sens, à leur recherche intérieure à eux, se mettaient en route, quittaient leur terre et venaient vers cet enfant en qui ils étaient prêts à reconnaître celui qu'on appelle le roi des Juifs. Et puis après, on est passé à des mystères qui concernent plutôt l'âge adulte de Jésus, le baptême. Ce moment où il contresigne en quelque sorte son intention lorsqu'il vient se mettre dans nos rangs, lorsqu'il se met au nombre d'entre nous. Son intention, épouser notre condition telle qu'elle est, dans toute sa pauvreté, ses limites, sa fragilité, et même, on peut le dire, son péché. S'il est lui sans péché, néanmoins, il se veut solidaire des pécheurs que nous sommes. Et c'est pour cela que, curieusement, il va recevoir le baptême de Jean. Baptême de conversion pour la rémission des péchés, pas encore baptême pour le pardon des péchés. Ce qui nous vaudra ça, ce sera la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus lui-même. Et aujourd'hui, deuxième moment d'entrée dans la vie publique de Jésus, après son baptême, où nous avons déjà entendu cette magnifique parole « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais », aujourd'hui nous voyons le premier signe à Cana. Et là encore, Jésus va commencer de dire dans l'évangile de Jean ce qu'il en est de son mystère, de qui il est et de ce qu'il veut faire parmi nous à notre bénéfice et de comment il veut s'y prendre. Signe. L'évangéliste le note. Ce fut le premier signe qu'il posa. Et vous savez comme moi que l'évangile de Jean se distingue en deux parties. Il y a la première partie, du chapitre 2 au chapitre 11, où c'est le livre des signes. Et puis il y a la deuxième partie, tout le reste, où c'est le livre de l'heure, le livre de l'accomplissement. Et vous l'avez déjà entendu dans l'évangile que nous avons proclamé à l'instant. Jésus le dit, « Mon heure n'est pas encore venue ». Et vous pourriez écrire « heure » avec un H majuscule, tellement ce moment de Jérusalem, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, tellement ce moment sera plein. Il sera plein de tout ce que le Seigneur aura vécu durant son temps parmi nous, y compris sa vie cachée. Et surtout, il sera tellement plein de cette intention d'amour qui porte le don que le Seigneur fait de lui-même lorsque, comme dira le même saint Jean, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, à cœur délié, à cœur perdu. Et donc, Jean nous met sur un chemin où nous allons petit à petit déchiffrer des signes, déchiffrer des rencontres. Cette année, nous aurons en plus ici à Saint-Eustache le bonheur de le faire d'assez près, puisque comme nous aurons quatre baptêmes dans la nuit de Pâques, nous aurons plusieurs haltes avec l'évangéliste Jean, la halte avec la Samaritaine, la halte avec l'aveugle-né et la rencontre si étonnante avec Lazare. Des signes que Jésus pose, non pas pour épater les gens, mais pour leur donner à penser. Et ce que je voulais nous partager ce soir tout particulièrement, c'est ceci. Quand on pense à saint Jean, on a tendance parfois à le statufier un peu. C'est le grand théologien, c'est l'aigle qui vole très haut, qui a un regard perçant, qui voit très loin, très profond. C'est celui qui fait des envolées mystiques et dont la musique de l'évangile est tellement mystique, et c'est vrai, et c'est absolument vrai. Mais quand vous regardez les choses, Jean, l'évangéliste, n'est sûrement pas quelqu'un qui plane. Au contraire, c'est quelqu'un qui adhère à la réalité, c'est quelqu'un qui scrute les signes qui lui sont donnés à voir et à méditer. Et ces signes, ils sont très simples. Il le dit d'ailleurs dès l'entrée de son évangile, dès le prologue qu'on a lu le matin même de Noël, le 25 décembre, ce prélude prologue du quatrième évangile. À un moment donné, Jean cisèle cette toute petite phrase « Le Verbe s'est fait chair ». Sarx. Il n'est pas question de viande. Il est question d'entrer dans une condition qui est friable, qui est fragile, et pour tout dire, qui est mortelle. Alors que, par définition et par nature, le Verbe, lui, il est invisible, il est immortel, il est tout de gloire et de lumière, il est absolument immarcessible, il ne peut pas connaître la corruption. Mais Jean nous dit, si, si, de sa volonté, il va entrer en composition avec nous. Et aujourd'hui, signe de la manifestation du Seigneur, Cana, c'est-à-dire une fête de village, un mariage. Et si l'on veut bien, il vaut mieux vraiment regarder cet événement. L'occasion du signe de Jésus, c'est quoi? C'est quelque chose de très fâcheux dans un mariage, à savoir le manque de vin, même si apparemment ils en ont déjà bu pas mal. Mais quoi qu'il en soit, et qui est-ce qui veille au grain? C'est Marie. Il y a bien un régisseur, un maître de maison, comme on l'appelle, mais c'est Marie qui repère qu'il y a un problème. À qui va-t-elle en parler? Curieusement, à Jésus. A priori, on ne voit pas très très bien ce qu'il a à voir là-dedans. Ce n'est pas lui qui est chargé de l'intendance du mariage. Ils n'ont pas de vin. Et vous avez remarqué la réponse de Jésus? Ça fait toujours un peu drôle quand il parle à sa mère sur ce ton-là. On se dit quand même, ce n'est pas très convenable. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et ça recommencera. Mais c'est intéressant. Ça recommencera à la passion. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » La même appellation lorsque l'heure sera venue. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien que Marie ne se laisse pas démonter. Et donc, elle accueille ça, elle le prend comme elle le prend. Mais en tout cas, elle ne doute pas de son fils. Et elle ne dit qu'une chose, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie à Cana, ce sont ces deux phrases. Elle repère, par attention, par vigilance, par sollicitude, quelque chose qui pourrait gâcher la fête. Elle sollicite son fils pour qu'il empêche que la fête soit gâchée. Et à ce moment-là, elle peut se retirer en ayant invité les autres, comme elle-même le pratique, à être dans la confiance. Mais vous voyez, en deux phrases comme ça, saint Jean vous dresse le portrait de Marie dans tout l'Évangile. À la fois une discrétion incroyable et à la fois une présence totale aux besoins réels, concrets des gens, comme on l'avait déjà vu lorsque, après l'Annonciation, elle est tout de suite partie aider Élisabeth, sa cousine, qui attendait un enfant. Et après, il y a cette chose extrêmement étrange. Il est question de vin qui manque. Est-ce que vous vous êtes fait la réflexion que les serviteurs vont remplir des jarres qui n'étaient pas destinées à conserver, ou des amphores, je ne sais pas, qui n'étaient pas destinées à contenir du vin, mais de l'eau rituelle. Donc on déplace complètement les accents. Et ces serviteurs, ben, ils font ce qu'on leur demande de faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent d'eau les jarres. Et ensuite, ils les apportent au maître du repas. Et c'est lui qui va constater le signe. Mais les petites mains, qui sont les artisans en quelque sorte de ce signe, ce sont ceux qui vont verser l'eau, transporter les jarres. Ouvriers discrets, mais indispensables. Et en outre, il y a encore cette mention de l'Évangile qui nous donne la contenance de ces jarres. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. 6 jarres, 600 litres. Je pense qu'ils ont fini la fête dans la brume. Mais néanmoins, cela nous dit quelque chose aussi de la munificence du Seigneur. Vous souvenez-vous que dans le désert, quand on allait chercher la manne, c'était une dose qui collait parfaitement aux besoins des gens. Ceux qui en ramassaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en ramassaient peu n'en avaient pas trop peu. Chacun avait selon ses besoins. Ici, dès lors qu'il est question de nous évoquer le banquet messianique, eh bien, il y a une munificence. Le Seigneur donne, donne et donne encore, et c'est à l'ivresse de l'esprit que nous sommes invités. Frères et sœurs, nous pouvons coller à cet événement de Cana. C'est un événement tout simple, mais il nous parle de ces noces de l'agneau que le Seigneur célébrera à Jérusalem lorsque le moment de sa Pâque sera venu. Ce sont ces noces que nous recélébrons ce soir, et lors de toutes nos Eucharisties, vous avez en tête cette phrase que le prêtre dit avant chaque communion, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Et nous répondons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas au rendez-vous, je ne suis sans doute pas au diapason de ton amour, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je nous invite volontiers à scruter ces signes de l'évangile de Jean et d'ailleurs de tous les évangiles. Vous savez, dans l'évangile, on ne parle en général pas de miracles, on préfère parler de signes de puissance, des gestes de bienveillance que le Seigneur pose à l'égard de ceux et celles qu'il rencontre pour aller justement au-devant de leurs besoins. Et il en passe vraiment par tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, des êtres fragiles, des êtres friables, des êtres parfois un peu inconstants. Je ne voudrais pas vous laisser sans vous avoir rappelé cette magnifique phrase de Peggy dans Ève que j'ai eu l'occasion d'évoquer souvent ici. Le surnaturel lui-même est charnel, et l'arbre de la grâce est raciné profond. Saint Jean, l'aigle, le théologien qui voit loin, profond, qui a le regard perçant, qui a l'intelligence spirituelle, qu'est-ce qu'il avait comme grain à moudre? Ce qu'il avait sous les yeux en suivant Jésus, ce qu'il entendait de la part de Jésus. Il a suivi Jésus dans son incarnation, jusqu'à sa mort, jusqu'au jardin de la résurrection. Il a compris ce que Peggy met en mots tellement longtemps après lui, que le surnaturel lui-même est charnel, l'arbre de la grâce est raciné profond. Les craintes de la révélation, les craintes de notre rédemption, c'est l'humanité du Seigneur Jésus. Après, eh bien, c'est aussi notre humanité. Essayons de faire droit à l'humanité du Seigneur. Essayons de lui offrir notre humanité pour, en en tirant le meilleur par sa grâce, pouvoir le partager à tous nos frères et sœurs en humanité. Amen.